France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Aujourd'hui, il n'y a pas un policier qui n'est pas intervenu quand ils sont en police secours hein, sur des violences conjugales à domicile. Donc il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils comprennent ce qui est en train de se jouer pour la victime.
Pendant 2 heures, je vais être questionnée, pas de manière très adroite d'ailleurs, je me sens assez mal. En fait, je ne comprenais pas le sens des questions et pour moi, ce n'était pas adapté en fait.
Alors, on a progressé bien évidemment dans la prise en charge, mais on est à des années-lumière. Il faut que tout le monde se regarde devant sa glace. Et les avocats dans la prise en charge aussi, les policiers, les magistrats, tout le monde.
Le souvenir s'est de nouveau imposé à l'écoute des témoignages qui vont suivre, un souvenir vieux de 33 ans. Je revois la porte du commissariat, l'agent qui me reçoit, le moment où il m'interrompt pour me dire, sourcil froncé, « Alors ça n'est pas une tentative de viol, mademoiselle, c'est un viol !» L'abîme de réflexion dans lequel me plonge cette affirmation. Mais je n'ai pas le temps de m'y attarder, je dois changer de salle et d'interlocuteur, fournir davantage de détails sur cette nuit sordide. Je ne sais pas vraiment ce que l'on attend de moi, je suis juste venue, convaincue par un ami qu'il faut tout faire pour empêcher mon agresseur de recommencer. Alors je raconte les menaces, le couteau qui a entaillé mon cou et dont on voit les marques, l'interminable négociation avec mon agresseur pour repartir sans lui donner ce qu'il exige, les concessions finalement faites pour qu'il me libère. Le policier, plutôt sérieux jusque-là, commente « Ah, vous avez à cœur de satisfaire le client ?» Je le regarde. Il change de visage, m'amène des excuses, mais le mal est fait. Ces mots ne s'effaceront jamais. Plus de 30 ans plus tard, après MeToo, après le Grenelle des violences conjugales, après le très médiatique procès des viols de Mazan, les policiers et les gendarmes ont-ils enfin appris à recueillir la parole des victimes? Savent-ils comment les prendre en charge, les orienter? Prennent-ils la pleine mesure de ces missions et mettent-ils un point d'honneur à collecter tous les éléments de preuve de ces délits ou de ces crimes? Violence sexuelle, violence conjugale, que fait la police? C'est un reportage signé Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Aurélie.
Vous avez voulu voir comment se déroule aujourd'hui la formation des policiers et des gendarmes en matière de violences faites aux femmes.
Oui, j'ai été notamment interpellée par une série de chiffres franchement accablants. Celui des féminicides qui repart à la hausse depuis 2024, tout comme celui des suicides forcés et celui rendu public par la Fondation des femmes en fin d'année. La moitié des femmes tuées en 2024 par leur conjoint ou ex-conjoint avaient signalé les violences qu'elles subissaient. Celui aussi du nombre de victimes de violences sexuelles qui explosent et des victimes qui portent toujours aussi peu plainte. Seulement 7% d'entre elles franchissent les portes d'un commissariat. Pourquoi en est-on encore là? J'ai voulu comprendre comment étaient formés les policiers, les gendarmes, ceux qui prennent les plaintes, ceux qui doivent recueillir les preuves, se charger d'évaluer le danger aussi. Il y a eu le Grenelle, il y a eu le hashtag double peine il y a 5 ans, cette vague de témoignages de femmes mal accueillies dans les commissariats et gendarmeries. Avec tout ça, avec la grande cause du quinquennat, je me suis demandé si les choses avaient réellement changé, si les policiers et gendarmes pouvaient encore penser aujourd'hui qu'elle l'a bien cherché, du nom du documentaire de Laetitia Onona sorti en 2018.
Mais pour tourner ce reportage, Julie, il y a eu quelques embûches.
Oui, d'abord trouver une formation continue, celle à laquelle participent des policiers ou des gendarmes volontaires. Certaines ont été annulées au dernier moment, faute de participants, en raison de contraintes d'effectifs, de manque de temps. Difficile donc de glisser son micro dans ces formations, et encore plus d'interroger les policiers. Ceux acceptant de me parler sont souvent les plus engagés contre les violences sexuelles et les violences conjugales, parce que personnellement concernés. Je tiens donc à remercier Marianne, Laurence, Jean-Jacques, Fabienne qui poussent les feux dans les Yvelines, le collectif féministe contre le viol et Emmanuel Piette, le docteur Bernard Marc à la Maison des Femmes, Sandrine Boucher, Karine Durieux-Diebolt et surtout ces femmes qui ont accepté de témoigner, de me confier leur histoire et leur traumatisme.
Et moi je remercie Ernestine Ronet d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour.
Bonjour.
Militante de très longue date, sans vouloir vous offenser, pionnière de la lutte contre les féminicides en France, vous présidez actuellement le comité national de l'ordonnance de protection, dispositif que vous avez importé en France, tout comme le téléphone grave danger. Vous êtes toujours coordinatrice pédagogique du diplôme universitaire violences faites aux femmes à l'université Paris 8, aux côtés du juge Édouard Durand. Et vous continuez de former les futurs gendarmes sur les violences conjugales. Vous pourrez nous dire comment ça se passe. Mais nous commençons par écouter ensemble le reportage de Julie. Alors, compte tenu du sujet, vous ne serez pas étonnée que certains témoignages puissent heurter les jeunes oreilles. Maintenant, Maintenant que vous êtes prévenue, nous écoutons Jeanne, 26 ans. En janvier dernier, elle s'est rendue dans un commissariat parisien pour déposer plainte pour viol.
Je suis donc allée dans le commissariat qui était proche de chez moi. J'y suis allée une après-midi où je savais que j'avais du temps. Ça faisait vraiment beaucoup de fois que je passais devant. Il y a donc deux policiers qui sont constamment armés à l'entrée. Donc je me suis approchée, je savais pas trop s'il fallait que je demande la permission ou pas. Ils m'ont dit « Bah, vous êtes une collègue ?» J'ai dit « Bah, non. » Ils me disent « Bah, qu'est-ce que vous venez faire là ?» Je dis « Bah, portez plainte. » Il me dit « Pourquoi ?» Je dis « Pour viol. » Il me dit « Pourquoi ?» Enfin, il me fait répéter. Je lui réponds plus fort « Pour viol. » On est dans la rue devant un commissariat. Donc d'un coup, il est évidemment extrêmement gêné. Moi aussi. Il m'indique où aller à l'intérieur. J'entre, je vais voir son collègue à l'accueil, et bon bah au moment où il apprend que c'est une plainte pour viol, il me fait patienter, il me dit que je vais passer en prioritaire au vu du motif du dépôt de plainte. Et après j'ai été reçue dans une toute petite pièce, très mal isolée du bruit, qui était juste à côté de... Je sais pas si c'était leur espace de pause ou peut-être... En tout cas un espace de passage où il y avait pas mal d'autres agents. Donc on les entendait... discuter, rigoler, j'entendais le contenu exact des conversations, chanter des chansons, enfin c'était un petit peu étrange. J'ai commencé à raconter mon histoire. Il n'a pas spécialement pris de notes, mais je pense qu'il essayait sans doute d'offrir une écoute active. Il m'a posé quand même quelques questions, mais qui ne me semblaient pas être en lien direct avec ma plainte. Il s'attardait sur des détails qui n'avaient rien à voir avec ce que j'étais en train de raconter. Savoir si l'agresseur était en couple ou pas au moment du viol, comprendre pourquoi je m'étais fâchée avec lui a posteriori, à tel point qu'au bout d'un moment, j'ai fini par lui dire « mais je crois que je comprends pas le lien avec ce dont on parle ». Et il m'a dit « oui, peut-être que je peux juste mettre que la relation s'est dégradée a posteriori ». J'ai dit « bah oui, par exemple ». Et bon, il a pris un très long moment pour rédiger tout ce que j'avais raconté. Donc pendant ce temps-là, il y a toujours toute cette atmosphère sonore un peu autour qui est un petit peu qui m'est pas tout à fait à l'aise. Il y a une collègue qui nous a interrompu aussi plusieurs fois pour prendre un tampon de la Marianne ou lui rendre sa clé qu'il avait oubliée à la photocopieuse. En toquant, mais sans spécialement demander la permission d'entrer, donc en fait ça fait une éruption dans la pièce. C'était un peu perturbant également. Et puis au bout d'un long moment, il me montre son écran, il me dit voilà, ben, dites-moi si vous avez des modifications à faire. Et bon, ben, je tombe un peu des nues en lisant ce qu'il a écrit. Ça tient vraiment en une dizaine de lignes à peine. Il n'y a pas de mention du fait que j'étais endormie au moment des faits. Il n'y a pas de mention des personnes qui étaient présentes dans le même appartement qui pourraient éventuellement corroborer sa présence. Ça, il faut que je lui suggère de prendre leurs coordonnées. Donc bon, je lui dis que je souhaite modifier des éléments, il me dit « ah bon, lesquels ?» Mais de fait, c'était un peu embarrassant parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses et à tel point que je me suis dit « ben j'aurais peut-être mieux fait d'écrire le courrier directement au procureur et tant pis si ça prend plus de temps » ou de venir avec un papier écrit parce que vraiment, bon voilà, ça a été laborieux et je me suis fait la réflexion que bon ben, dans ces situations-là, tout le monde n'ose pas forcément faire modifier 4 fois quoi, une fois, 2 fois pourquoi pas, mais 14 non quoi. Donc voilà, et puis... Bon, ben finalement, je finis par relire une dernière fois et me dire qu'on n'arrivera à rien de mieux, quoi. Donc, je fais valider, je signe. Et puis, au final, 5 jours plus tard, je me fais rappeler par un autre commissariat qui a pris en charge ma plainte, qui l'a montré au procureur. Et bon, tous étaient d'accord que quand même, leur collègue avait pris ma plainte de manière beaucoup trop lacunaire. Il y avait très peu de questions qui m'avaient été posées, qu'il faut que je revienne pour un complément de dépôt de plainte. Donc j'y retourne 2 semaines plus tard. Donc on a refait un peu tout ça ensemble une deuxième fois au commissariat. Je me souviens m'être dit, ben, je comprends mieux pourquoi un tas de plaintes finissent au placard et n'ont pas tellement de traitement par la suite, parce que si elles sont toutes reçues comme ça, ben, y a aucune info dedans, y a rien. Il m'a pas proposé d'ajouter de pièces à mon dossier, j'ai dû lui fournir les attestations de médecins que j'avais amenées, une liste de témoins à qui j'en avais parlé avec leurs coordonnées. À la suite de quoi, la seconde personne qui m'a reçue m'avait dit, ben... C'est du meilleur travail que la plupart des gens qui travaillent avec moi ici, quoi.
Des auditions bâclées et des questions maladroites, voire déplacées et intrusives, aux sous-entendus culpabilisants, sexistes et dégradants. C'est ce à quoi a été confrontée Élodie. À l'été 2017, elle est victime de viol. un viol survenu lors d'une soirée chez elle, commis par un homme, un ami d'amis qu'elle ne connaît pas. Il lui faut 3 jours pour prendre conscience de ce qu'elle a vécu, que son corps se réveille, que les douleurs apparaissent. Elle en parle alors à une amie et toutes deux se rendent dans une brigade de gendarmerie du Calvados.
Quand on arrive à la gendarmerie, il est 18h15. Et déjà là, on nous dit on ne peut pas vous recevoir. Donc c'est mon amie qui insiste et qui dit recevez-la, elle vient pour telle raison porter plainte. Il y a eu un moment d'hésitation et on a été accueillis. Donc j'arrive à 18h15 dans les locaux. Je suis accueillie par un homme. Au début, il voulait que je sois toute seule, entendu, mais je voulais pas être seule avec lui. Donc, mon ami est resté avec moi. Et pendant 2 heures, je vais être questionnée. Pas de manière très adroite, d'ailleurs. Je me sens assez mal. Et on va me poser, après que j'ai relaté les faits, la question de savoir comment j'étais habillée ce soir-là. Je vois pas l'intérêt de la question et voilà, mais bon, je vais répondre que j'étais en jean avec un débardeur, d'ailleurs que j'amène, où il y a du sang aussi dessus. Il m'a parlé de mes enfants, il m'a demandé depuis quand je connaissais cet agresseur, sauf que je ne l'avais jamais vu avant cette soirée-là. Donc je l'ai décrit, tout ça. Il m'a demandé mon état d'esprit depuis. Donc ça, c'était... ça se voyait, en fait, j'allais pas très très bien. Et sur des questions très, très intimes de ce qui s'est passé, il m'a demandé est-ce que je m'étais rendu compte de combien de doigts j'avais eu dans le vagin, si j'avais eu mal, que quand il avait voulu me pénétrer, quand j'ai dit m'a retourné, il a voulu pénétrer par derrière, il m'a demandé si c'était une sodomie, si j'avais senti son sexe. Et c'est vrai que plus il me parlait et plus je me sentais mal, en fait, voilà. Il me dit que vous avez dit qu'il vous a baissé votre pantalon. Est-ce que le pantalon est resté baissé durant toute cette période? En fait, je ne comprenais pas le sens des questions. Enfin, je n'arrivais pas à réaliser. Et pour moi, ce n'était pas adapté, en fait. Bon, voilà. Après ça, le lendemain, donc, je vois le médecin légiste et je n'ai plus de nouvelles. Et ça dure des semaines et des semaines et des semaines. Donc, je n'allais pas bien. Et je l'appelle et il me dit « Madame, entre les migrants et les cambriolages, j'ai autre chose à faire. »
Élodie doit attendre 6 mois avant d'être convoquée à la gendarmerie pour une confrontation avec son agresseur.
Je pars un petit peu soulagée parce que c'est une sacrée étape, en fait, ce moment-là. Et on se dit « Cahier, ça va avancer, la justice va faire son travail. » J'arrive chez moi, ce gendarme m'appelle. En me disant « Bon, vous voyez, ça s'est bien passé, tout ça. » Donc, je lui dis que mon ressenti, tout ça. Et là, il me dit « Bon, maintenant, je peux vous le dire, que ça vous serve de leçon. » J'ai failli enlever ma plainte à cause de ce genre de choses, notamment ce qu'il m'avait dit avant Noël. Et je disais « Mais non, tu l'enlèves pas, parce que si ça arrive à une autre femme, s'il refait ça à quelqu'un, eh bien, au moins, il y aura ta plainte. » Et c'est pour ça que je l'ai laissé. Parce que c'est déjà difficile de subir, de vivre ce genre de choses, d'accepter d'en parler, parce qu'on se sent honteux, alors que la place de la honte, elle n'est pas de ce côté-là, normalement, mais on se sent honteuse. Il y avait aussi le fait que ce soit chez moi. C'est quelqu'un qui s'est incrusté à mon domicile, m'a dit « vous y avez ouvert la porte ». Il m'avait sorti ça aussi, je viens de m'en rappeler. C'est pas parce que j'ouvre une porte que j'autorise un viol, en fait. Donc voilà, et on en était encore là.
9 ans après 2017 et le début de la vague MeToo, en est-on encore là? Caroline a déposé plainte pour viol en décembre 2024 dans un commissariat au cœur de Paris et a dû s'engager dans un parcours du combattant.
Moi, j'ai expliqué à la policière que j'ai été examinée juste avant de venir par mon médecin qui a fait un constat de mon état physique et psychologique et qu'on avait discuté dans l'éventualité que je dépose plainte, que là c'était très très important que les examens aux UMJ se passent là tout de suite parce que c'était vraiment très sensible au temps. Donc pour avoir la trace que j'avais ces substances dans mon système, il fallait faire les prises de sang et les urines assez rapidement. Voilà. Il a aussi dit pour prouver qu'il y avait forcément la pénétration, qu'il fallait les traces du sperme. Et qu'il m'a dit, dans les 72 heures, il m'a dit vraiment, on est à la limite. Et j'ai essayé de dire à cette policière que le médecin a fortement recommandé d'avoir un rendez-vous aux UMJ le plus rapidement possible, et si possible ce soir. Et elle m'a dit, oui, mais c'est jusqu'aux 5 jours. Et je lui ai dit, je comprends. On m'a expliqué, oui, c'est légalement 5 jours. Mais je vous dis ce qu'un médecin, il avait dit. Bon, au final,
Elle me donne le numéro de téléphone et elle me dit, vous allez les appeler. C'était 2h30 du matin après la dépose de plainte. Et vous allez les appeler dans quelques heures et ils vont vous donner rendez-vous.
Les UMJ ?
Oui. Mais on ne va pas appeler le matin. Il faut les faire, hein, là, maintenant. Et donc, je pleurais. J'étais dans le commissariat en train de pleurer, quoi. Donc, moi, de ma propre volonté, il est 2h30 du matin. Moi, je suis allée toute seule aux urgences de l'hôtel Dieu. Voilà. Et donc, j'étais dans un état pas possible après le dépôt de plainte. Et l'infirmier là-bas, il m'a dit, madame, vous devez comprendre, on n'a pas de place, etc. Mais je vais essayer d'avoir un rendez-vous pour vous aux UMJ le plus rapidement possible. Mais malheureusement, il a pu avoir un rendez-vous 96 heures après le viol.
Et vous, vous aviez quand même de forts soupçons de soumission chimique.
Oui. Comme j'ai parlé avec l'infirmier, il m'a dit, madame, vous inquiétez pas, s'il n'y en a pas les preuves de urine ou du sang, coupez pas vos cheveux. Coupez pas vos cheveux pendant 90 jours. Et oui, j'avais un doute. J'avais un doute parce que c'était très bizarre. Je me levais le matin, j'étais comme c'était bizarre. Voilà. Et donc, du coup, mon avocat, il avait expliqué au procureur que c'était fortement recommandé par les UMJ au cours de l'enquête. Voilà. Et on arrivait à l'échéance de la durée recommandée pour faire un recueil, une expertise capillaire. Et donc, j'avais juste, il fallait faire cet examen. Donc, j'ai recherché, j'ai trouvé un expert qui est agréé par le tribunal judiciaire de Paris. Et j'ai fait réaliser l'expertise moi-même sur ordonnance médicale à mes frais. Voilà.
Ça vous a coûté
1200 euros.
Des analyses capillaires qui révéleront la présence de kétamine.
Bonjour.
Entrez.
Merci beaucoup.
Allez jusqu'au bout.
Ces mauvaises prises en charge de victimes de violences sexuelles par la police, Emmanuel Piette ne les connaît que trop bien. Une trentaine de victimes de viol contactent chaque jour le collectif féministe contre le viol dont elle est la présidente.
On voit qu'il y a beaucoup de choses bonnes pour ne pas prendre les plaintes. Alors que normalement, on n'a pas le droit de refuser une plainte. Ça, c'est vraiment la première chose sur laquelle on bute. Puis après, c'est la deuxième chose, c'est un manque de crédibilité de la victime, du point de vue du policier ou du gendarme. C'est-à-dire que, bon, t'as vu comment elle est habillée, bon, elle rigole, donc elle n'est pas victime, etc. Il y a des vraies pertes de chance au niveau de la police. Et, par exemple, dans une dernière étude qu'on a faite, c'était 5 femmes sur 8 à qui on n'avait pas proposé les urgences médico-judiciaires. Et bien ça, c'est une perte de chance extraordinaire. Parce que si on ne va pas tout de suite aux urgences médico-judiciaires, les preuves vont beaucoup partir. Et il n'y aura même pas de preuves du tout, donc c'est quand même vraiment dommage. Il y a comme ça des éléments où la considération du crime n'est pas du tout entendue. Ici, c'est la loterie. C'est-à-dire que oui, il y a un certain nombre de policiers qui ont été formés, mais pas tous. Donc c'est juste ça pour savoir si tu as du pot ou pas de pot. Et puis, il y a des policiers qui ont été formés un peu, une demi-journée, etc. Et la formation d'un professionnel quiconque sur ces histoires de violence, c'est pas une demi-journée, c'est 15 jours, c'est avec des exercices, avec des mises en situation, avec la compréhension des mécanismes, avec la réflexion sur les mots prononcés, des choses comme ça. Et ça, ça se fait pas en une demi-journée de sensibilisation, voire en module internet qui se repasse où t'es présent ou pas dans ta tête. Donc, oui, on ne veut que des policiers formés vraiment profondément, volontaires, et qui considèrent que c'est leur métier de s'occuper des violences.
Bonjour à tous. Je suis Fabienne Boulard, je suis major de police. On va passer la matinée ensemble, on va parler des violences conjugales et des violences sexuelles.
Pourtant, tous les policiers sont aujourd'hui formés sur les violences intrafamiliales et les violences sexuelles et sexistes. Une formation initiale obligatoire que Fabienne Boulard, responsable de la délégation départementale d'aide aux victimes, tient aussi à dispenser aux futurs réservistes de la réserve opérationnelle dans les Yvelines.
Il faut que vous compreniez, encore une fois, d'où on vient pour savoir pourquoi on en est là aujourd'hui. 276 000 victimes, c'est 276 000 plaintes. On dit qu'il n'y a à peu près qu'une femme sur 10 qui dépose plainte. Je vous laisse faire la multiplication. Ça veut dire que concrètement, sauf à vivre dans une grotte, vous connaissez des victimes de violences conjugales. Les victimes, ça peut être nos sœurs, nos mères, nos cousines, nos copines. Les auteurs, ça peut être nos frères, nos copains, nos machins. On va le voir après, hein. L'auteur, c'est pas celui où on le voit, on se dit « Ah, lui, putain, la sale gueule qu'il a, lui, il doit être auteur de violences conjugales. » C'est jamais ça, hein. C'est toujours le mec sympa. 90% des faits se sont passés au domicile, d'accord ? Qui rentre au domicile ? Les flics et les pompiers. Donc ça va être à vous de voir, de comprendre ce qui est en train de se jouer au domicile. Vous êtes les premiers intervenants. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ce qui est en train de se jouer, derrière, ça ne suivra pas. Violence sexuelle, le comment? Il imagine quoi? Il imagine le viol dans la rue, sombre, dans le... C'est ça l'image du viol que les gens ont. 9 victimes sur 10 dans le viol connaissent leur agresseur. 2 mots sur les violences sexuelles. On met toujours, toujours le doute sur la parole d'une victime de violences sexuelles. Alors si c'est avec quelqu'un de connu, alors là, elle y a été. Elle dépose plainte pour viol pour être célèbre et avoir de l'argent. Alors moi je vous pose la question, donnez-moi le nom de quelqu'un qui est devenu célèbre et riche après avoir dénoncé un viol. Cherchez pas, il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas. D'accord? Donc ça, il va falloir que ça sorte des têtes. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Parce que si vous voulez mettre le doute sur les victimes, moi, je vous dis, OK, vous le faites pour toutes les infractions. Enfin, vous avez un pote qui vous dit, on m'a volé ma voiture. Première action, oh merde, mon pauvre, comment tu vas faire pour aller bosser? Est-ce qu'on met le doute sur la victime? Dans les atteintes au bien? Jamais. Dans les affaires de viol? Ah. Donc, les arguments de dire, elle y a été, elle voulait avoir une relation avec lui, elle voulait avoir du pognon, elle voulait être connue. Mais c'est pas ça le sujet! Donc, ce matin, on va voir comment vous pouvez.
Durant 3 heures, cette major de police détaille plusieurs concepts, notamment celui du cycle des violences conjugales: tension, crise, justification et réconciliation.
Donc là! Vous êtes intervenu au domicile, c'était horrible, les enfants pleuraient, enfin voilà. Et le lendemain, vous les croisez main dans la main dans la rue. Bon, il y a 35 ans, on n'était pas formés, on disait « sous de ma gueule, elle ». C'est impossible qu'on entende ça aujourd'hui. Vous avez compris ce qui se joue, dites-vous bien qu'elle est dans le cycle. Et qu'à un moment, elle comprendra que c'est un cycle.
Vous avez dit tout à l'heure que ça peut durer une minute, une heure, une journée, un an. Est-ce que c'est possible? On est appelé, on arrive, le cycle est déjà fini.
Oui.
Mais il peut se reproduire, il peut se redéclencher à n'importe quel moment en appuyant peut-être un élément ou...
Alors, pas devant vous, parce que l'auteur, il n'est pas fou. Contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas fou. Et la plupart du temps, ils ne sont pas cons, donc devant vous, ça va être l'homme idéal. Et c'est elle. On verra après avec les stratégies de l'auteur. Est-ce que c'est clair pour vous? Mais vraiment, il faut que vous l'ayez à l'esprit, ça, tout le temps. Dans les violences physiques, vous devez décrire les violences physiques. Il y a une différence entre pousser, on va dire pousser de manière générale, mettre une claque et stranguler quelqu'un. Les tentatives, les strangulations, les tentatives de strangulation, de défenestration, de bâillonnement sont des actes qui peuvent largement faire penser qu'il peut y avoir un passage à l'acte féminicidaire après. Je t'étrangle, ça veut dire que tu vas disparaître. Il y a déjà cette intention-là dans son geste. Vous devez, vous, dans vos écrits, préciser les violences physiques. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les violences physiques. La lutte contre les violences conjugales, c'est une chaîne. Et dans une chaîne, il y a des maillons. La police est un gros maillon. Enfin, les forces de l'ordre sont un gros maillon. C'est-à-dire, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Si on était vraiment entre nous, dans la police, que dans la police, je vous dirais, il faut que chacun porte ses couilles. C'est hyper important. Une femme meurt tous les 3 jours des mains de son compagnon. Si on rajoute à ça les suicides forcés, les tentatives de suicide, tentatives d'homicide, c'est 4 femmes par jour. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change nos réflexes, nous.
Une formation brève, mais percutante, pour cette quinzaine de futurs réservistes, comme Sarah, 34 ans.
C'est un des sujets qui m'a donné envie de rentrer dans la réserve et qui, de base, faisait que j'étais intéressée par les forces de l'ordre. C'était vraiment ce côté-là où je me disais que je sais ce que peut ressentir une femme. J'ai pu le voir, alors moi je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai pu le voir et j'ai vu, en fait on voit certains policiers, forces de l'ordre qui réagissent pas bien, qui peuvent avoir des conséquences graves ici, mais je me dis que à notre échelle, en tant que citoyen, en tant que femme aussi, on peut peut-être apporter quelque chose, avoir justement ce type de formation pour des nouveaux qui sont pas forcément mis en place chez les anciens, qui eux font, ils vont vous dire 40 ans qu'on fonctionne comme ça. Sauf que non, il faut que ça évolue, quoi. C'est trop grave. Moi, ce qui m'a marqué, du coup, c'est... Parce que tout le reste, je connaissais à peu près tout ce qui est cycle, etc. Mais c'est les phrases à pas dire. Parce que c'est vrai que même avec beaucoup de bienveillance et de bonne volonté, on peut avoir tendance à poser des questions de pourquoi. Et en fait, on se rend pas compte, effectivement, potentiellement, de l'impact de tout ce qu'il y a derrière. Et que les violences, c'est pas que physique. Parce que c'est souvent ce qu'on entend. Et que maintenant, effectivement, je pense que les hommes qui sont violents, les violences physiques, c'est vraiment, c'est pas ce qui ressort le plus, parce qu'ils sont vraiment pas cons.
Mobilisée depuis une dizaine d'années contre les violences faites aux femmes, Fabienne Boulard a formé de nombreux policiers, de tous grades, dans son département.
Moi, je leur explique souvent que si ce sujet ne les intéresse pas, eh ben, ils sont libres de partir. Pas de partir de la formation, de partir de la police. Parce que de toute façon, ils seront confrontés à ces sujets-là. Aujourd'hui, il n'y a pas un policier qui n'est pas intervenu quand ils sont en police secours, hein, sur des violences conjugales à domicile. Donc, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils comprennent. Ce qui est important par la pédagogie, je pense, c'est qu'il faut qu'ils comprennent ce qui est en train de se jouer pour la victime. Alors, par habitude, dans les formations police, on parle de l'auteur, parce que c'est l'auteur qu'on interpelle, c'est l'auteur qu'on va ramener, c'est l'auteur qu'on va traiter, entre guillemets. Mais aujourd'hui, et depuis plusieurs années maintenant, le regard qu'on essaye d'avoir, c'est le regard sur la victime aussi. La victime, et je le mets entre guillemets, elle nous est utile, parce qu'elle va nous permettre de comprendre ce qui se joue et de pouvoir imputer des infractions à l'auteur. Mais on était un peu pas très doués, on va dire, pour accueillir les victimes, pour les prendre en charge. Parce que, par exemple, les formations sur le psychotrauma, elles sont assez récentes. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on comprenait pas. Pourquoi la victime, elle s'est pas débattue? Pourquoi elle a pas crié? Pourquoi elle a pas... Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et quand on comprend pas, on peut éventuellement le mettre en doute. Et ça, c'est inadmissible. Aujourd'hui, on l'a compris. Aujourd'hui, c'est le message qu'on passe. Un exemple, une victime de viol, si elle se présente et qu'elle nous semble confuse, elle sait plus quand ça s'est passé, comment, etc. Quand on n'est pas formé au psychotrauma, on peut se dire bah, « c'est pas possible qu'elle s'en rappelle pas, quoi. Si elle s'en rappelle pas, c'est peut-être qu'elle ment ». Aujourd'hui, c'est fini, ça. Avec le psychotrauma, on a bien compris que, au contraire, si elle s'en rappelle pas, c'est vraiment que le traumatisme a été très très important et que justement, elle a été victime, quoi.
Dans le cadre de violence conjugale, vous n'avez aucun endroit où vous êtes safe. C'est-à-dire que votre agresseur, il est dans le cocon familial.
Changer le regard des policiers et améliorer l'accueil et l'assistance des victimes de violences conjugales. C'est l'objectif d'une formation à la Direction territoriale de la sécurité publique de Seine-Saint-Denis, à Bobigny. Gardien de la paix, brigadier, primo-intervenant comme enquêteur, une dizaine de policiers suivent ce stage de 2 jours.
Ça est à moi, bonjour. Voilà, donc j'ai plaisir à être avec vous. Autour de cette thématique des violences faites aux femmes et en particulier...
Bernard Marc, je suis le chef de service de la Maison des Femmes, je suis médecin légiste. C'est une culture qui doit être une culture partagée, c'est tout l'intérêt justement de faire des formations communes avec les officiers de police judiciaire, d'aller à leur devant, de sensibiliser aux violences, sensibiliser aux différents types de violences. Les violences, elles peuvent être physiques. On les reconnaît, on les voit. Puis il y a aussi ces violences psychologiques extrêmement importantes. C'est aussi très important de montrer le contrôle coercitif et son impact sur la santé. C'est aussi important de voir l'importance que prennent les violences sexuelles dans les violences dans le couple. C'est maintenant 24-25%. On a fait une étude rétrospective sur les chiffres 2024 dans 2 UMJ que je dirigeais, en Nord-Seine-et-Marne et dans l'Oise, donc à proximité de Paris. Eh bien, on a 25% des victimes qui sont victimes de violences sexuelles dans le couple et beaucoup qui sont des violences sexuelles qui ressemblent à des agressions comme on a connu dans l'affaire Pellicot, avec des personnes obligées par soumission chimique ou par intimidation par leur compagnon à avoir des pratiques sexuelles qu'elles ne veulent pas, ou bien des schémas où la personne est souvent dans des soumissions ou chimiques, comprenant l'alcool bien évidemment, qui l'expose à des pratiques avec partenaires multiples, partenaires souvent conviés par le concubin. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. C'est plus juste le coup de poing, c'est plus les violences qui sont le premier élément. L'agresseur va tenter de dissimuler. Le coup de poing sur la figure, ça se voit. Ces violences sexuelles, c'est difficile d'en parler. Et donc, on voit leur importance qui est en train de grandir. Et là, les chiffres 2024 sont vraiment tout à fait clairs. Donc, on voit ces éléments qui sont très importants à faire rentrer dans une nouvelle pratique avec des officiers de police judiciaire. Et il faut véritablement sensibiliser. Chacun a quelque chose à faire. Et la seule bénéficiaire, c'est la femme victime de ces violences.
Alors, voici ce petit canevas. Nous avons l'identité de la victime, vous le connaissez, voilà, la relation entre la victime et l'auteur, très important. Très important pour 2 choses.
Détecter des violences multidimensionnelles, mais aussi les caractériser. Canevas de plainte, grille d'évaluation du danger, scénario de protection. Les policiers y sont formés sur les différents outils mis en place depuis le Grenelle contre les violences conjugales. Et sur la façon dont ils doivent remplir les actes d'enquête pour qu'une procédure arrive à son terme sur le plan judiciaire. Face à eux, Mathilde. Diop, substitute du procureur au tribunal judiciaire de Bobigny.
D'aller chercher des éléments de preuve. Alors déjà peut-être sur la stratégie d'enquête en matière de violence conjugale, je le disais tout à l'heure, les primo-intervenants, c'est vraiment peut-être même l'élément le plus important dans une procédure judiciaire. Une procédure, quand elle arrive devant un tribunal, ça change tout. Qu'on ait un PV de saisie d'interpellation qui soit très bref, avec quelques lignes, ou qu'on ait un PV de saisie d'interpellation particulièrement détaillé. Ça vient apporter beaucoup de choses quand vous nous dites « Monsieur est dans un état d'excitation particulier. Madame, au moment où on intervient, elle est en pleurs. Le logement, il est dans un état de désordre important, par exemple. » On nous dit souvent, c'est un mot qu'on voit souvent dans les PV de saisie d'interpellation. Mais c'est-à-dire, en fait, prendre des photos aussi, ça vient nous aider. C'est assez peu fait. C'est pas quelque chose qu'on voit très fréquemment. En tout cas, quand ça l'est, c'est quelque chose qui vient vraiment aider à rapporter la preuve. Parce que, par exemple, quand madame dit « J'ai été menacée à mon domicile avec un couteau », que vous nous disiez bah, « Là, il y a un couteau sur le plan de travail qui est sorti », qu'il soit pris en photo aussi, qu'on se rende compte à peu près de la taille du couteau, c'est quelque chose qui, une fois qu'on va arriver à l'audience, va nous permettre, nous, magistrats, le juge notamment, qui lui n'était pas avec vous hein, au moment de l'enquête, ça va vraiment lui permettre de visualiser la chose, et c'est vraiment des éléments qui nous permettent de caractériser une infraction. Le plaintier, il a un rôle primordial dans le recueil, notamment des éléments de preuve, parce que, bah, c'est ce que je disais au départ, hein, parfois madame elle vient déposer plainte, puis le lendemain elle répondra pas à votre collègue qui voudra l'auditionner complètement. Donc l'idée c'est de recueillir tous les éléments possibles, de favoriser d'abord un récit plutôt libre, parce que nous aussi encore en termes de charge de la preuve, ça nous permet de matérialiser des infractions quand le récit il est particulièrement circonstancié. Quand madame elle vous donne mot pour mot ce qu'a dit monsieur à tel moment, que la menace elle est... j'ai envie de dire, presque suffisamment spécifique pour que madame ne l'ait pas inventé. Tout ce qui est capture d'écran, de messages, de menaces, de photographies, de coups, c'est des choses qu'il ne faut vraiment pas hésiter à récupérer dès le stade de la plainte, pas forcément attendre l'audition par le collègue qui va être en charge de la procédure, et prendre un maximum de détails à ce sujet-là, et notamment, j'insiste un peu là-dessus, sur l'horodatage des photographies, parce que quand une victime, elle vous fournit une photo où elle voit où on voit sur la photo qu'il y a une blessure, vous la versez à la procédure, l'avocat va nous dire en défense, bah oui, madame le procureur, vous poursuivez les violences du 3 juin 2025, par exemple, cette photo, elle est en procédure, qu'est-ce qui me dit que ça s'est produit le 3 juin 2025 ? Il faut se dire aussi, c'est peut-être un peu difficile au stade où vous intervenez, vous, en tant que peut-être primo-intervenant, en tant que police-secours, mais que tous les actes que vous faites à un instant T seront disséqués ensuite à l'audience, que ce soit une audience de comparution immédiate qui intervient 2 jours plus tard, une audience de CPVCJ qui intervient 6 mois plus tard, ou un procès d'assises, par exemple, qui intervient des années ensuite. Aux assises, par exemple, je parle en matière de viols conjugaux, par exemple, le policier qui a suivi l'enquête au départ, il est amené à déposer ensuite devant les assises, et croyez-moi qu'on va lui poser des questions dans tous les sens, parce que le procureur va lui poser des questions, que l'avocat va poser des questions, que le président va poser des questions, et donc c'est important que des années après, on ait un procès-verbal qui soit suffisamment détaillé et inattaquable, en fait.
J'étais en formation cadet ici, je voulais dire.
Jean-Jacques, policier au sein de Noisy-le-Grand.
Est-ce que vous pensez que vous et vos collègues, vous êtes aujourd'hui suffisamment formés, qu'il n'y a plus de maladresse de la part de policiers aujourd'hui, notamment face aux violences sexuelles, qui ne sont pas forcément que conjugales ?
Alors, suffisamment formés, moi je dirais qu'un policier, c'est quelqu'un qui est en perpétuelle formation, au fait. On a un site qui s'appelle e-campus, là on peut s'auto-former. Je l'ai fait, cette formation déjà sur les violences conjugales. Là, je refais encore une autre formation parce que, voilà, je me dis, malgré la première formation, ça c'est quand même bien d'avoir encore d'autres outils. Donc, nous qui travaillons en section judiciaire, je pense que c'est quand même important.
La grille d'évaluation du danger, c'est des outils que vous connaissiez ?
Oui, on le connaît. Quand je suis arrivé dans le service plainte, les collègues, ils te forment là-dessus. Ils te disent, voilà, pour les violences conjugales, voilà, on a des questions qui sont là, qui vont t'aider, parce que c'est pas évident, effectivement. C'est pas évident. Je me rappelle même il y a pas longtemps, j'ai fait par exemple un cas d'une jeune demoiselle qui était dans une relation de concubinage, qui a vrillé un peu, c'est-à-dire son copain commençait à l'utiliser comme voilà. Donc là, c'est parti assez loin. Donc c'était tu fais ça, sinon il y a des coups, tu vas coucher à gauche, à droite, voilà. Et j'ai été confronté à cette jeune demoiselle, j'ai pris une plainte. On a commencé avec elle, je crois, de 17h jusqu'à 22h, j'étais avec elle. dans le bureau. Et c'était une plainte qui était ponctuée de beaucoup de moments. Quand elle pleurait, il fallait lui laisser le temps. Voilà, qu'elle pleure un peu, calmer les tensions. Il fallait essayer, parce qu'au bout de certaines fois, elle avait un débit de parole, elle disait beaucoup de choses. Donc il fallait pouvoir la recentrer, voir c'est quoi l'essentiel pour moi là-dedans, qu'est-ce qui est utile pour moi pour, ou bien pour les collègues pour la suite, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Mais elle, elle avait beaucoup, elle avait énormément de choses à dire, il fallait qu'elle dise tout. Mais en tout cas, on a, heureusement, vraiment, il y a ce canevas avec tout ce questionnaire qui nous permet, pour les cas des violences conjugales en l'occurrence, effectivement de suivre. Pour le cas de proxénétisme aussi, pour lequel j'ai fait cette prise de plainte, c'était ça aussi. On a des questions qui sont là, qui vont orienter pour que, voilà, il y ait quand même des éléments factuels, des faits infractionnels qui seront recueillis et qui permettront effectivement de... que la justice suive son cours.
Bonjour madame, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus par rapport à ces violences, s'il vous plaît ?
Oui, bah oui, il m'a violentée, il me violente souvent, mais je ne veux pas déposer plainte, je veux juste écrire pour que ça laisse une trace si j'ai un souci.
Alors, excusez-moi, je vais être un peu plus précise dans vos questions.
Ces formations continues sur la base du volontariat ou à la demande d'un chef de service viennent donc compléter une formation initiale très limitée, reconnaît un autre policier. Et si d'importants progrès ont été réalisés depuis le Grenelle contre les violences conjugales en 2019, certains fonctionnaires de police restent insuffisamment formés. L'avocate Karine Durieux-Diebolt assiste des victimes de violences sexuelles depuis plus de 10 ans.
Merci. Ton attitude très bien.
Il y a quand même une évolution dans le traitement des affaires de violences sexuelles, si ce n'est par la connaissance de certaines notions ou de concepts qui étaient très méconnus avant MeToo. Et maintenant, de manière générale, dans nos affaires judiciaires, on arrive à cerner beaucoup mieux le traumatisme des victimes. La sidération, donc le fait d'être complètement tétanisé et paralysé, et également la dissociation traumatique, de la même manière que le contrôle coercitif, aide aussi à la compréhension des mécanismes qui peuvent se mettre en place dans un couple, notamment, et qui peuvent expliquer la durée dans le temps des comportements violents de l'agresseur. Donc on a tous ces concepts-là qui sont intéressants, qui sont mieux appréhendés et qu'on a moins besoin d'expliciter. Maintenant, la formation, elle n'est pas généralisée et tout le monde ne les connaît pas. Et je dirais que de manière générale, sur une affaire criminelle qui va durer des années et des années, malheureusement, on a à une étape de la procédure presque systématiquement un des professionnels qui peut être soit policier, soit expert, soit magistrat ou autre. On a à une étape, une victimisation secondaire parce qu'on va avoir un professionnel qui n'est pas suffisamment formé.
La France, elle a été condamnée à deux reprises par la Cour européenne des droits de l'homme en 2025, justement pour victimisation secondaire. Est-ce que vous avez en tête ces condamnations ?
Il y a plusieurs condamnations en réalité, en deux fois. À travers ces affaires-là, il a été acté que les procédures ont été beaucoup trop longues, que le questionnement des victimes a souvent été source de traumatisme, soit parce que on a culpabilisé la victime, soit parce que on a été intrusif, soit parce que il a été repris des stéréotypes de genre. Et je pense à l'affaire Julie. Donc c'était une mineure qui avait dénoncé des faits de viol commis par des pompiers. Il a été admis par la justice européenne que le traitement judiciaire était maltraitant pour la victime, à qui notamment on avait invoqué des stéréotypes de genre et que notamment, de manière générale, les jeunes filles étaient sensibles au charme ou à la séduction, à la capacité de séduction des pompiers. Donc en tirant des généralités de ce type-là, ça signifie à la victime que finalement elle a pu consentir, et la question du consentement a été aussi largement débattue dans le cadre de ces affaires judiciaires, puisque la France avait également un retard dans sa définition des violences sexuelles, c'est-à-dire viol ou agression sexuelle, et que ce retard se retourne en défaveur des victimes. Depuis lors, on a eu la loi qui a introduit cette notion de consentement et qui peut être considérée aussi comme une avancée pour les victimes.
Des avancées législatives, mais qui restent insuffisantes, alerte le Conseil de l'Europe. Dans un rapport remis en septembre dernier, un groupe d'experts pointe ainsi les lacunes dans la protection des femmes en France. Des lacunes qui peuvent aboutir à des féminicides, dont le nombre repart à la hausse depuis 2024. Sandrine Boucher est la présidente de l'Union nationale des familles de féminicides.
Il n'y a pas réellement de prise en compte de ces féminicides. On voit bien que le gouvernement, la grande cause nationale, c'était du flan. On en a parlé au moment du Grenelle, et puis plus rien derrière. Il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a rien. Et donc, ça continue. Il n'y a pas vraiment de choses qui sont mises en place pour protéger les femmes. En 2024, il y a quand même 47% des femmes qui avaient dénoncé des violences antérieures au féminicide. Mais qu'a-t-on fait de la libération de leur parole ? Parce qu'on parle beaucoup de libération de la parole. Moi, je pense qu'elles crient depuis très longtemps, c'est juste qu'on ne les entend pas. Et du coup, oui, il y a au moins 47%, je pense, de féminicides qui auraient pu être évités. Et puis, il existe aussi des outils dans d'autres pays. On sait que ça marche, il y a juste à copier, il n'y a rien à inventer. Et pour autant, on ne le fait pas. Il n'y a pas de réelle volonté politique, on le voit bien. Alors, c'est beaucoup de communication. Hein. Alors, l'ordonnance de protection en 24 heures, moi, ça me fait doucement rigoler parce que c'est qu'un bout de papier. Et on le voit bien sur le terrain, si monsieur veut la tuer, c'est pas un morceau de papier qui va l'empêcher de la tuer. Donc, il faut mettre vraiment des vrais dispositifs, des vraies mesures concrètes pour empêcher monsieur d'aller tuer madame.
Des femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, malgré leurs plaintes, malgré les dispositifs de protection dont certaines bénéficiaient, mettant en lumière de terribles défaillances dans leur suivi judiciaire.
Fabien Racquillon, avocat pénaliste.
Dans de plus en plus de cas de féminicide et d'affaires de féminicide, les familles attaquent l'État.
Oui, on peut aujourd'hui affirmer que ce n'est plus du tout résiduel. En tous les cas, moi, je le vois au sein de mon cabinet, où on a 6 procédures en cours d'action en responsabilité de l'État dans des cas qui sont juste hallucinants. Je peux vous donner 2 exemples, mais je pourrais y passer malheureusement la matinée.
Donc là, il s'agit de...
Alors, Patricia, qui se déplace le 8 mai 2022 au sein de la gendarmerie locale. Un mois et demi après, on la retrouve morte. Et elle se déplace avec un certificat médical d'un centre hospitalier qui constate 3 jours d'incapacité totale de travail. Elle décrit les facteurs de vulnérabilité qui sont les siens et elle coche toutes les cases. Et elle vient dire la chose suivante. C'est un dossier dans lequel la victime parle. Voilà, c'est le message qu'elle nous laisse. Il me menace de me tuer si je le mets dehors. Je ne vois pas de sortie avec ce type. Il a pris un râteau qui se trouvait dans la buanderie. Il m'a menacé avec. J'ai déjà reçu des objets. Sa tendance, c'est me cramponner à la gorge en serrant très fort, mais je me défends à chaque fois. Je suis détruite psychologiquement. Je ne me sens plus être une femme. Je suis un déchet de la société. Sur les violences sexuelles, depuis que nous sommes séparés, à chaque fois, il me demande, je ne veux pas, mais j'y suis obligée, car il me force avec des gestes en m'écartant les jambes. Et j'ai même déjà, pendant l'acte, en attendant que ça se passe, regardé mon téléphone pour voir combien de temps cela durait. Voilà ce qu'elle vient dire aux gendarmes. Il est placé en garde à vue, d'accord, et cette affaire sera classée sans suite et on lui restituera le râteau. Pardon, le parquet, dans sa grande mansuétude, décidera d'une ordonnance pénale parce qu'on aura trouvé 2 grammes de résine de cannabis. Et bien, un mois et demi après, Patricia est retrouvée morte. Alors ça, si c'est pas une faute lourde de l'État, je sais pas ce que c'est. Autre exemple. Alors, on est en 2022, hein, donc c'est très récent. Il y a un voisin qui appelle les gendarmes locaux. « Bonsoir, je vous appelle parce que j'habite à Cheval Blanc. J'ai mon voisin qui est complètement torché là depuis 2 ou 3 heures. Il est en train de frapper sa femme. Les gendarmes se rendent sur place. Et voilà ce que disent les gendarmes qui ont été entendus. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'il devait respecter ce qu'elle lui demandait et qu'il devait se reposer avant tout là. Mais il s'est mis à pleurer. Je lui ai conseillé de dormir, de prendre une grande tasse de café à son réveil, de souffler un grand coup, de prendre son courage à deux mains et de l'appeler pour essayer de trouver une solution. Eh bien oui, son courage à deux mains, il l'a pris parce que 4 heures après, il se rend sur le lieu de travail de Maggie et il lui assène 34 coups de couteau. Voilà. Alors ça, si c'est pas une faute lourde, je sais pas ce que c'est non plus. Et des exemples comme ça, malheureusement, on en a énormément. Ça peut pas être un épiphénomène parce que lorsque je prends, et c'est mathématique, le nombre de dossiers de féminicide au sein du cabinet, et on en a un certain nombre, et lorsque je le corrèle au nombre de dossiers dans lesquels il y a des dysfonctionnements, ça montre qu'il y a un problème qui est profond, qui est structurel. Alors, on a progressé, bien évidemment, dans la prise en charge, mais on est à des années-lumière. à des années-lumière. Il faut que tout le monde se regarde devant sa glace. Vous voyez, je le dis, les avocats dans la prise en charge aussi, les policiers, les magistrats, tout le monde. Si on se contente tous les ans de venir dire il y a X nombre de féminicides une fois par an, on n'aura pas avancé. Hein. Et moi, je pense qu'il faut multiplier ces recours maintenant pour que les pouvoirs publics prennent conscience de tout cela.
Ce que vous mettez aussi en lumière à travers ce que vous me racontez, c'est que ce n'est pas le parquet qui n'a pas pris la mesure du danger. C'est que là, le danger n'est pas évalué à sa juste mesure par les primo-intervenants, les gendarmes et les policiers qui interviennent au domicile.
C'est une chaîne. Non seulement les primo-intervenants ne prennent pas la mesure de ce qui est en train de se jouer, mais in fine, ce n'est pas le gendarme qui décide, c'est le parquet. L'opportunité des poursuites, c'est le procureur de la République. Qui décide de la levée de la garde à vue, c'est le procureur de la République. Qui décide de la restitution du marteau, c'est le procureur de la République. Qui décide du classement sans suite, c'est le procureur de la République. Voyez-vous, moi maintenant, j'ai décidé qu'en plus de ces actions à responsabilité de l'État, dans ces dossiers qui arriveront devant la cour d'assises, je ferai citer vraisemblablement le substitut du procureur de la République qui a pris la décision de classement sans suite dans les anciennes procédures. Alors, ça ne sera pas la chasse aux sorcières, mais il va falloir que chacun s'explique.
D'abord il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis à moi aussi. Et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vie classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, et c'est bien ça. Te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse.
La chanson « Je t'accuse » que la chanteuse Suzanne a dédiée à toutes les victimes de violences sexuelles et sexistes, avec l'espoir d'encourager d'autres témoignages et une prise de conscience collective. Violence sexuelle, violence conjugale, que fait la police? Un reportage de Julie Paco avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Ernestine Ronet, militante historique des droits des femmes et des enfants, est l'invitée de ce grand reportage. Alors, vous avez introduit en France des dispositifs comme le téléphone grave danger, comme l'ordonnance de protection. Est-ce que ces outils destinés à protéger les femmes en danger sont suffisamment connus, compris et déployés en France aujourd'hui?
Alors non, le reportage qu'on vient d'entendre évidemment le dit assez clairement, non, ça n'est pas suffisamment utilisé. Le téléphone grave danger a été déployé et mieux utilisé, on est à plus de 6000 téléphones dans les bureaux des procureurs et ça peut encore se augmenter, donc ça c'est plutôt positif. L'ordonnance de protection est malheureusement très sous-employée. On est à 4900 à peu près ordonnances de protection accordées, ce qui est peu, moins que de téléphone, c'est complètement aberrant. C'est une mesure civile qui permet à la dame de se signaler et de demander protection pour elle et ses enfants. Elle ne demande pas la sanction de l'agresseur, elle demande juste la protection. Et il faudrait que ça soit beaucoup plus multiplié. Si on veut éviter les féminicides, il faut absolument qu'on réussisse à ce que l'ordonnance de protection se déploie bien davantage.
Alors vous avez entendu quand même Sandrine Bouchet, la présidente oui. De l'Union des familles de féminicides, qualifier l'ordonnance de protection de bout de papier. Vous comprenez ce qu'elle dit?
Alors elle parlait d'abord de l'ordonnance provisoire de protection immédiate que le procureur peut prendre en 24 heures. L'ordonnance de protection se prend en 6 jours et il s'agit de violences vraisemblables, c'est-à-dire alléguées et non pas avérées parce qu'il n'y a pas d'enquête de police, et elle permet que la victime se signale. Finalement, il n'y a que 31% de victimes qui se signalent aux forces de sécurité intérieure, ce qui est peu. Et si on veut que ça augmente le nombre de personnes qui se signalent, il faut deux choses. Un, le rapportage le dit très clairement, il faut quand même qu'on ait confiance dans les forces de sécurité. Et donc, largement, on s'améliore encore sur ce sujet. C'est vrai, il y a eu des améliorations, mais on n'y est toujours pas, je suis d'accord. Et deux, il faut qu'on permette aux femmes de révéler les violences, même si elles veulent pas porter plainte contre le père de leurs enfants, si elles ont trop peur des représailles. Parce que quand même, il faut qu'on arrive à se représenter de quoi on parle. L'insécurité maximum dans laquelle se trouvent les victimes et leurs enfants, il faut qu'on se le représente beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui encore dans l'ensemble de la société.
Je reviens sur le cas d'Inès Messelem, retrouvée poignardée à Poitiers en septembre dernier. Elle avait déposé plusieurs plaintes contre son ex-compagnon. Elle avait activé son téléphone grave danger. L'inspection générale de la justice a reconnu une accumulation de défaillances des services de l'État dans cette affaire. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé un changement de méthode. Je ne sais pas si vous avez des précisions là-dessus dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Il a annoncé notamment la création d'un guichet national des téléphones grave danger. Qu'est-ce que ça peut changer ?
En fait, ce qui s'est passé à Poitiers, c'est que la dame avait un téléphone. Elle a actionné son téléphone 2 jours avant d'être tuée. L'agresseur a été interpellé. Il ne m'est rien arrivé de particulier et il n'y a pas eu même il est sorti de la garde à vue sans rien. Donc en vrai, il lui est rien arrivé. Et le téléphone grave danger ne marche, ce n'est qu'un outil technologique, c'est un téléphone. Ça suppose que derrière, il y a une interdiction d'entrer en contact avec la victime de la part de l'agresseur, donc on s'occupe aussi de l'agresseur. Et là, ce qui s'est passé à Poitiers, le grand dysfonctionnement, c'est qu'on ne s'est pas occupé de l'agresseur. C'est complètement fou. À Poitiers, ce qui manque, c'est un comité de pilotage de l'ensemble des professionnels, parce que c'est que par le partenariat qu'on va pouvoir savoir que celui-là, c'est un très grand agresseur et qu'il faut vraiment s'en occuper, si j'ose dire. Ça, c'est la chose la plus importante.
Donc, c'est la collaboration entre tous les services.
Entre les associations, les services, mais aussi les associations. France Victimes avait alerté et ça n'a rien donné. Donc, effectivement, là, il y a eu un très grand dysfonctionnement. Cette dame jamais n'aurait dû être tuée. Et on dit aux femmes, portez plainte. Quand elles le font, ben, il faut que ça marche derrière. Et malheureusement, ça n'est pas suffisant de porter plainte. Ça suppose que derrière, les forces de sécurité intérieure, comme ça a été dit par l'avocat, la justice dans son ensemble, finalement, protège la dame. Ce qu'il faut, c'est protéger. Il faut qu'on arrive à acquérir dans notre pays une culture de la protection avec une culture de la précaution. Et il n'y a pas de petite violence. Il faut qu'on dise qu'une claque, eh ben, ça peut paraître rien et on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc il faut qu'il y ait une réponse pour chaque violence. Parce que les hommes violents sont tous dangereux et imprévisibles. On ne sait pas quand ça va tomber.
Alors cette culture, elle s'acquiert hein, et les forces de l'ordre ont besoin de formation. Donc on a vu que cette formation, elle progresse, hein, il faut quand même le souligner. Les violences intrafamiliales et les violences sexistes et sexuelles sont abordées en formation initiale. Elles peuvent être revues et approfondies en formation continue. Mais là, si j'ai bien compris, c'est sur la base du volontariat.
Ah non, pas forcément.
Alors ça dépend dans quel service.
Ça dépend dans quel service. Moi, je fais de la formation pour les gendarmes au Centre national de la formation de la gendarmerie nationale. Ils sont appelés à venir en formation. Ils sont pas juste volontaires. C'est plutôt les magistrats qui seraient volontaires que les policiers.
Alors justement, à propos de la formation dans la police et dans la gendarmerie, c'est pas exactement la même parce que ça peut être un peu troublant. Mais pourquoi est-ce que je ne serais pas reçue de la même manière dans un commissariat et dans une gendarmerie ?
Comme partout, c'est personnel dépendant. Alors, il y a la loi qui est pour tous, en principe, la même. Et la façon dont je l'applique, que ce soit magistrat, policier ou gendarme, c'est différent. Permettez-moi de dire, parce que ça me paraît très important, en fait, ce qu'on a comme problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un nombre insuffisamment de policiers formés, volontaires, comme l'a très bien dit Emmanuelle Piette, la présidente du collectif Fémis contre le viol, un nombre insuffisamment de gendarmes formés, volontaires, un nombre insuffisamment de magistrats formés, volontaires. Il faut absolument que, si c'est vraiment une grande cause nationale, eh bien, on donne les moyens humains, et donc les moyens financiers derrière, pour que réellement les stocks ne s'accumulent pas et les dossiers ne s'accumulent pas et que ça dure, comme la dame l'a dit dans un des reportages, et que ça dure très longtemps, il faut que les choses se fassent rapidement, correctement, avec des gens formés. Donc, ça suppose de changer le braquage. La Fondation des femmes dit qu'il faut 3 milliards pour les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, on est à 95 600 000 euros. On voit bien qu'il y a un petit décalage horaire et qu'il faut qu'on arrive à rattraper ce... C'est pas possible qu'on reste avec si peu de policiers, de gendarmes, de magistrats formés. Et parce que c'est vrai, après, ils ont des stocks. Et malheureusement, les stocks, ça donne des choses dramatiques.
Et quand vous intervenez au centre de formation des gendarmes, comment est-ce que vous êtes accueillis? Avec intérêt, avec réticence? Quel genre de questions est-ce qu'on vous pose? Vous avez l'impression que c'est vraiment un sujet d'intérêt pour les gendarmes?
Oui, les gendarmes qui sont là sont intéressés. Ils sont en formation et ils vont devenir à leur tour formateurs. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est quelque chose d'important. Ils sont intéressés. Je pense qu'il y a deux choses qui restent dans la mentalité encore à évacuer, si j'ose dire. Un, l'idée quand même que les femmes mentent. Et ça, il faut qu'on en sorte. Il faut que, si on veut que les femmes disent tout ce qui leur arrive, il faut qu'on les écoute avec bienveillance, qu'on leur montre qu'on les croit. Puis après, il y aura l'enquête qui dira les choses. Mais il faut d'abord qu'on les croit. Donc la première chose, c'est d'arrêter de penser que les femmes mentent. Il faut les croire. Et puis, sans doute que derrière, la deuxième chose, c'est que s'il y a une bonne audition, on aura une bonne enquête. Si on a une bonne enquête, on aura aussi des poursuites. 42% de classement sans suite. Alors vous savez, c'est un mot qui nous énerve beaucoup. Classement sans suite, c'est sans suite pour qui ? Sans suite judiciaire, d'accord, mais la dame, la victime, elle, sa souffrance, elle n'est pas sans suite. Et pareil pour quand il y a une instruction, non-lieu, comme si ça n'avait pas eu lieu. Bien sûr que ça a eu lieu. Et malheureusement pour la dame, c'est quelque chose qui les révolte, et elles ont raison. Nous aussi, ça nous révolte. Il faut qu'on soit sur classement, pas de classement sans suite, bien sûr, il faut des éléments de preuve, mais qu'on arrive à croire les victimes.
Une question de Julie Paco.
Oui, comment vous expliquez aussi ces différences, ces disparités territoriales au sein de la police nationale concernant la formation continue? On l'entendait dans le reportage, c'est pas le même type de formation dans les Yvelines qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple.
Eh bien, ça, c'est personnel dépendant. C'est-à-dire que c'est pas pareil quand quelqu'un de très impliquée comme Fabienne fait la formation, elle a fait le diplôme universitaire, elle est très au courant comment des mécanismes de la violence et du coup elle explique très bien. Si vous êtes moins bien formée, eh bien vous êtes moins bonne. Et si vous-même vous êtes moins, si la personne qui fait la formation est moins impliquée, eh ben ça sera moins bien. Et du coup les policiers qui assisteront à la formation seront moins convaincus de la nécessité de changer leur pratique, puisque c'est quand même à ça qu'il faut qu'on arrive à aboutir.
Un mot pour évoquer la Fédération nationale Solidarité Femmes qui gère le 3919, la ligne d'écoute des femmes victimes de violences. Elle s'inquiète aujourd'hui de l'offensive de collectifs masculinistes. Elle reçoit des appels d'hommes qui se plaignent qu'elle ne soit pas ouverte aux hommes, insulte les écoutantes ou dénigre son travail. Et c'est une préoccupation également au sein des forces de l'ordre. Merci beaucoup Ernestine Ronet. Violence sexuelle, violence conjugale, que fait la police? Un grand reportage. Signé Julie Paco avec Annie Brault à la réalisation, à la technique Alex Dank, documentation Corinne Chauvel et Véronique Le Faller. Pour retrouver ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.